Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir, les curieux, c'est votre curiosité, votre bonne humeur du soir. Vous allez bien, Thomas?
Ça va très bien, salut Sidonie. Si vous aussi, vous en avez marre que l'eau coule le long de la théière et non, pas dans la tasse, réagissez au 3210 sur RTL.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL. Alors au programme, on va aussi vous raconter l'histoire et vous parler des bienfaits du citron à l'occasion de la fête qui démarre samedi à Menton. On vous dira tout sur cet agrume qui séduisait les marins et les rois et qui a fait la fortune de la ville jusqu'à la fin du 19e siècle.
Et puis l'histoire du plus grand chasseur de bisons, du héros de la conquête de l'Ouest, de l'inventeur, de l'Indien et du cow-boy, du créateur du premier grand divertissement américain, le Wild West Show, j'ai nommé Buffalo Bill.
Alors la curiosité, vous le savez, c'est du lundi au jeudi, c'est de 20h à 22h, c'est en direct. On aime notamment découvrir l'origine des mots et on a été servi hier, écoutez bien, avec un doigt d'honneur très médical.
Les premiers doigts d'honneur, ils ont été à l'adresse des médecins, justement. Ça passait au Moyen-Âge. Les médecins, moins ils touchaient les malades et mieux ils se portaient. Ils en avaient plus peur qu'autre chose. Et pour les palper, ils le faisaient du bout du doigt, avec le doigt le plus long, ben le majeur. Donc ils les palpaient comme ça. Inutile de vous dire que souvent les malades n'étaient pas dupes de leurs compétences. Et quand le médecin avait le dos tourné, ils avaient l'habitude de retourner le doigt et de leur montrer...
Voilà, des pépites comme celle-là, il y en a tous les soirs sur RTL.
Et tout de suite, on se pose plein de questions de sciences amusantes.
Science.
RTL.
La gargoulette était la manière populaire et économique de refroidir l'eau lorsqu'il n'y avait pas d'électricité. Elle est tombée petit à petit dans l'oubli et la majeure partie de celles qui sont fabriquées se vendent comme articles de décoration. Botiro, des gargoulettes pour le monde entier.
Science.
La curiosité est un vilain défaut.
Une sonde de 5 mm de diamètre, des électrodes, voici ce qui, dans un avenir proche, aidera à lutter contre les tumeurs cérébrales. Cela s'appelle l'électroporation.
Science.
Jusqu'à 22h.
Science.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais bravo, vous êtes à l'heure pour votre cours de sciences physiques. Non, ne fuyez pas. On va faire des sciences joyeuses, drôles et curieuse grâce à nos deux invités physiciens. Bonsoir Jean-Michel Courty.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Bonsoir Edouard Kerlik.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors ce qui vous passionne tous les deux, c'est la physique du quotidien. C'est quoi la physique du quotidien?
Ben, c'est pas un cours la physique du quotidien, c'est partager notre passion, essayer de comprendre des tas de phénomènes surprenants qu'on voit tous les jours, et puis aussi en fait de découvrir que certains phénomènes... plutôt banal, habituel, recèle des trésors d'ingéniosité et de merveilles.
Bon, on commence tout de suite avec une expérience. Comment rafraîchir une boisson sans réfrigérateur et sans glaçon? C'est compliqué, non?
Ben, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Pour le faire, on utilise l'évaporation. Et ça, on sent tous quand on sort de sa douche ou de la piscine qu'il fait bien plus froid quand on est humide que quand on est sec. C'est parce que l'eau s'évapore et les molécules d'eau, pour quitter l'eau liquide, en fait, récupèrent de l'énergie qui est avec. Et donc, en récupérant cette énergie, ça refroidit. Et donc, pour refroidir les boissons, eh bien, on va utiliser souvent ce qu'on appelle une brique, c'est-à-dire c'est un plat en céramique. Hein.
Ce qu'on appelle la garoulette qu'on entendait dans la mise en onde d'André Facetta, c'est
oui,
la même chose?
Tout à fait.
Oui, c'est
Edouard
ce genre de récipient qu'on utilise. Alors, ce qui est tout à fait astucieux dans ce genre de récipient, c'est de la terre cuite, mais qui n'est pas émaillée. Et puisque la terre cuite est poreuse, ça permet à l'eau d'imprégner le récipient, d'atteindre la surface et de s'évaporer lentement. Et du coup, ça abaisse la température à l'intérieur du récipient et le résultat est spectaculaire. On peut gagner 10 degrés ou 15 degrés sans aucune électricité, juste en laissant évaporer le liquide à l'intérieur.
Alors cette garoulette, ça s'appelle aussi en Espagne le botijo, c'est ça?
Alors le botijo, c'est carrément le récipient pour mettre la boisson dans lequel on va boire. La garoulette, je crois que c'est plutôt pour mettre une bouteille à l'intérieur, là, à la refroidir.
Nuance.
Alors que là, le botijo, on va mettre la boisson à l'intérieur. Et puis, voilà, le prix à payer, c'est que ça va se... et on va en perdre un petit peu. Mais avoir quelque chose qui est à 15-20 degrés quand il fait 30 degrés dehors, ça vaut vraiment...
Bah c'est déjà bien. C'est le même principe que le sauna où on va supporter des températures très élevées parce que l'air est sec. Est-ce que c'est la même explication?
Alors, en fait, oui. Là, on utilise dans le sauna le fait que l'eau qui s'évapore sur notre peau permet de nous refroidir. Sinon, on ne supporterait pas les températures atteintes du sauna, hein, qui sont de l'ordre de 95 degrés. Sans évaporation, en quelques minutes, notre corps s'échaufferait et on dépasserait les 40 degrés qui sont mortels.
C'est-à-dire que 95 degrés dans un hammam, qui est l'autre pièce qu'on peut utiliser, c'est insupportable avec l'humidité de l'air, c'est ça?
Oui, les hammams, ça ne dépasse pas 50 degrés, en fait. Hein. Oui. Comme il y a la chaleur humide, en fait, alors notre corps continue à transpirer pour essayer d'évacuer la chaleur, sauf que l'eau qu'on a sur le corps ne s'évapore pas. Donc on transpire, mais on ne se refroidit pas. Donc 50 degrés, ça va si on n'y reste pas trop longtemps, mais une température supérieure, là, ce serait vraiment problématique.
Jean-Michel Courtier, Edouard Kirlik, vous publiez En avant la physique, 42 phénomènes du quotidien déchiffrés. C'est chez Belin et vous y proposez des expériences qui partent vraiment de notre quotidien, on peut le voir, et ça nous a évidemment séduit, nous les curieux. Vous proposez notamment, grâce à la physique, de rendre nos frites plus simples à découper, à cuire et moins grasses. Quel défi !
C'est une belle promesse.
Toutes les oreilles sont tendues, comment c'est possible ?
Alors,
On va utiliser un phénomène qu'on appelle l'électroporation, qui a été mentionné tout à l'heure.
Oh là, l'électroporation.
En fait, on applique des décharges électriques assez intenses et courtes sur un végétal ou sur des cellules. Et ce qui se passe, c'est que les membranes des cellules sont fragilisées, il s'y crée des pores de façon quasiment irréversible.
Attendez, mais on fait ça à nos pommes de terre ?
Oui, on fait ça à vos pommes de terre.
C'est l'industrie. Vous martyrisez vos patates. Vous.
Non, mais elles sont déjà mortes quand on l'a fait.
Vous me rassurez. Mais l'industrie agroalimentaire utilise cette électroporation, mais des décharges comme ça à notre patate.
Oui, parce que le grand avantage, c'est que puisque vous avez percé la membrane, vous permettez la communication de l'intérieur de la cellule avec ce qui est à l'extérieur. Oui. Et du coup, vous pouvez extraire à froid des colorants, du jus, des arômes. Donc, sans autre procédé.
Et alors, pour revenir sur les frites, en quoi ce système facilite la découpe, la cuisson de la patate sans huile à ce moment-là, comprendre.
Le premier avantage, c'est que comme les parois sont affaiblies, la pomme de terre, elle se tient, mais elle est toute molle. Et donc, ça veut dire que quand on la coupe, déjà, ça va demander moins d'énergie. Mmh. Et surtout, ça va faire une découpe qui va être bien nette, bien franche, avec une surface bien lisse. D'accord. Et donc, ça veut dire que quand on va mettre la frite dans l'huile, eh bien, alors, d'une part, à cause des petits trous, il y a l'eau qui va pouvoir sortir et faire une petite couche de vapeur à la surface de la frite et qui va protéger la frite. Et ensuite, comme la surface elle est lisse, eh bien, l'huile ne va pas se déposer dessus, il va y avoir bien moins d'huile.
Alors, je sais que vous êtes physicien et pas nutritionniste, mais nos pommes de terre qui sont comme ça maltraitées, on dirait de la torture de Guantanamo, c'est quand même bon pour nous ou pas ?
Est-ce qu'ils gardent leur
oui, leur, c'est saveur, ça,
leur,
ouais.
leur saveur et leurs éléments nutritionnels ?
C'est pas votre problème, ça, en fait.
Ah, si.
Si, on s'y intéresse,
vous boudiez, alors on était embêtés.
Non, mais ça a juste fait des petits trous, c'est quelque chose de mécanique, en fait, qui se passe sur les parois. Mm. Donc, en fait, à l'intérieur, au niveau des composants, ça change pas grand chose.
Edouard Kirlik ?
Oui, on peut quand même citer, si on faisait pas ça, si vous congelez un aliment, c'est comme lorsque vous mettez une bouteille d'eau remplie dans un réfrigérateur, elle éclate. Donc voilà ce qui adviendrait sans électroporation. Vos cellules, elles éclateraient complètement. Avec l'électroporation, finalement, vous faites des trous, mais pas plus.
Dans un instant, on va résoudre une autre énigme, celle de la théière qui coule pas dans la tasse, mais sur son bec. C'est tellement énervant. À tout de suite, les curieux sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bourville qui sifflote et qui chantonne Tifortou dans la grande vadrouille. C'est dans un hammam d'ailleurs, si je ne me trompe. Et nos invités qui sont physiciens, Edouard Kirlik et Jean-Michel Courtier, mais aussi cinéphiles, nous rappelaient la réplique célébrissime du film.
But you are French.
On s'en souvient tous.
L'accent y est,
c'est du Bourville dans le texte. Donc on découvre des expériences de science amusantes grâce à nos invités. Et donc cette question qu'on posait juste avant la pause avec Sidonie, pourquoi l'eau coule-t-elle toujours, en tout cas très souvent, le long de la théière et pas directement dans la tasse ? Ça énerve les scientifiques, ça aussi.
Alors oui, ça nous énerve beaucoup et même doublement parce que ça nous énerve parce qu'on verse le thé à côté et en plus parce qu'on comprend pas pourquoi.
Bon, oui,
mais en fait, il y a des collègues qui ont résolu l'énigme il y a 2 ans.
Mais ça fait longtemps qu'on cherche.
Alors bah ça fait depuis 70 ans qu'on a des idées.
Et ça fait sérieux dans les collègues de dire tu cherches quoi? Ben moi je réfléchis à l'eau qui coule sur la théière. C'est des recherches qu'on fait un peu discrètement, j'imagine.
Non, parce que là sur ce qu'il a fait, il y a vraiment des implications après sur le
industriel. Ah oui, alors racontez-nous.
Mais je vais revenir d'abord sur le thé.
Oui, comment il a trouvé.
Donc ce qu'on sait depuis longtemps, c'est le fait que quand il y a un filet d'eau ou un filet d'air le long d'une surface, ça suit la surface. Ça, vous pouvez le faire en expérience, c'est-à-dire si vous prenez une bouteille de vin que vous mettez devant votre bouche, si vous mettez une bougie juste derrière la bouteille, vous soufflez, vous avez l'impression que la bougie elle est cachée par la bouteille, et bien pourtant les filets d'eau ils vont épouser la surface de la bouteille et puis revenir derrière.
Oui, une expérience encore plus simple, c'est de mettre son doigt sous un filet d'eau et vous allez vous rendre compte que le filet d'eau, lorsque vous mettez juste un tout petit peu de votre doigt...
On le dévie.
Oui, il est dévié, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il épouse vraiment la courbure de votre doigt avant de quitter votre doigt.
Bon, donc c'est pas seulement les théières qui nous en veulent, ça c'est un principe de base. Ensuite, comment on a réussi à l'expliquer et éventuellement à trouver une solution?
Alors,
il y a 2 ans.
Oui, alors c'est un peu le phénomène général, mais par ailleurs, les physiciens, ils savaient qu'il y avait une recette de grand-mère sur le sujet qui était que si on met un petit peu de beurre sur le bec, eh bien, ça fait que ça colle pas. Voilà.
Vous connaissiez ça, Sidonie?
Mais pas du tout.
Ah ben moi non plus.
J'ai appris ça.
Voilà, donc un petit peu de beurre.
Oui.
Et donc le truc, c'est que ce qu'on comprenait pas les gens, c'est comment ça se fait que, alors que le fait que ça colle, c'est un effet très grand, macroscopique et tout, un petit détail de surface, ça va tout changer. Et en fait, ce qui compte, c'est de savoir au départ du filet d'eau, est-ce qu'il a envie de coller ou pas. Quand on met une goutte d'eau sur une surface où ça mouille, on voit que la goutte d'eau elle s'étale. En revanche, si on met une petite goutte d'eau sur un morceau de beurre ou etc., on voit que ça fait comme une petite bille, comme une goutte d'eau rosée. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec la théière. C'est-à-dire que au début du filet d'eau, eh bien, cet effet, ça va repousser.
Oui.
Le thé qui coule, et le fait que ça le repousse même à l'échelle microscopique, ça suffit à faire que ça colle pas et qu'après le filet d'eau continue tout droit.
C'est ce qu'on appelle l'effet Coanda, c'est ça? C'est ce qu'ont trouvé les physiciens. Ça s'applique comment dans le reste de notre quotidien? À quoi?
Alors c'est un ingénieur roumain, qui a trouvé ça, Coanda. Les applications, elles sont incroyables en fait. Une des applications auxquelles on ne songe pas, c'est les clims. Qui soufflent de l'air au plafond.
Mmh. Ouais.
Justement, on profite du fait que le filet d'air a tendance à suivre la surface, donc il reste au plafond, et en faisant ça, il y a une espèce d'aspiration qui a lieu, qui permet de brasser l'air de la pièce. Mmh. Et vous voyez l'intérêt, on ne vous souffle pas dessus, c'est juste de l'air qui est aspiré par ce filet d'air qui coule au plafond. Après, il y a un ventilateur d'une marque bien connue, Dyson pour ne pas les citer, qui utilise exactement le même effet. Vous injectez de l'air, des filets d'air sur une espèce de cercle.
Mais oui, c'est ça, on se demande vraiment, ça a l'air, c'est de la magie version 2017.
Et même chose, ça aspire l'air environnant, grâce à l'effet Coanda.
D'accord.
L'effet Coanda permet aussi de stabiliser les hélicoptères, de quelle manière?
Alors c'est plutôt des soucoupes volantes, en fait, qu'il avait, c'est Coanda qui avait inventé ça, c'était des appareils volants en forme de soucoupe, et puis on soufflait de l'air du haut vers le bas, ça a épousé et il y a l'air qui quittait la soucoupe vers le bas, ça poussait donc la soucoupe vers le haut. Mais bon, à part quelques modèles réduits, ça n'a jamais vraiment marché de manière exceptionnelle.
Autre question que l'on trouve dans votre livre En avant la physique, 42 phénomènes du quotidien déchiffrés, publiés chez Belin. Alors, question qu'on s'est tous posée en levant les yeux au ciel et en voyant des oiseaux sur les lignes à haute tension. Pourquoi ne sont-ils pas électrocutés, ces oiseaux?
Oui, c'est d'autant plus une bonne question que les lignes à haute tension, elles atteignent 400 000 volts. Et au quotidien, lorsqu'on a une secousse, là, quand on touche un objet à cause de l'électricité statique, c'est plutôt quelques dizaines de kilovolts, quelques dizaines de milliers de volts.
Et déjà, ça secoue.
Et déjà ça secoue. Donc on se dit, si c'est 20 ou 30 fois plus élevé la tension, mais on risque énormément.
Mmh.
Alors l'oiseau, en fait, il bénéficie de sa petite taille. Donc quand il saisit le fil électrique, il va se charger, parce que il est sous tension. Mmh. Donc un certain nombre de charges vont traverser ses pieds et se décharger, parce que la tension, elle oscille avec le temps, c'est le 50 Hz. Tension varie au cours du temps.
D'accord.
Donc, l'oiseau, il se charge, il se décharge périodiquement. Ça fait donc un courant électrique à travers son corps.
Mmh. Peut-être qu'il aime ça, c'est peut-être pour ça qu'il vont souvent sur
le
fil électrique.
Absolument pas, mais le courant électrique, c'est proportionnel à la taille.
Et pourquoi ça ne marche pas comme ça chez nous ?
Parce qu'on est trop grand, trop lourd.
C'est exactement la même chose, sauf que...
Sauf qu'on est trop grand, en fait. Et les courants, autant les courants qu'il y a dans les oiseaux, ça ne lui fait rien, autant si on regarde par rapport à notre taille, on aurait des courants de plusieurs dizaines de milliampères. Et ça, c'est des courants qui carrément font des contractions, qui peuvent même arrêter le cœur.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme solution, par exemple, pour les électriciens qui interviennent sur ces lignes à haute tension ?
Alors, ces électriciens, ils vont s'habiller avec des combinaisons totalement métalliques. Et il y a un effet physique qu'ils appellent l'effet Faraday, qui est le fait que les charges vont être à l'extérieur des habits.
Donc, en fait, ça reste à l'extérieur.
Ça reste à l'extérieur.
Comme une voiture sous l'orage.
Exactement, d'accord. Comme une voiture. Enfin, maintenant, les voitures plastiques, moins.
Ah mais, oui.
Edouard Kierlik ?
Oui, aussi un autre effet, c'est que près des lignes à haute tension, on entend souvent des grésillements. Et ces décrésillements, ouais. Ça correspond aussi à un phénomène de petite décharge au voisinage des fils électriques. Mmh. Un peu l'équivalent, si vous voulez, des feux de Saint-Elme. Et avoir une combinaison métallique, ça évite aussi de se prendre des décharges électriques juste en approchant la main, sans avoir encore touché.
C'est quoi les feux de Saint-Elme ?
Alors,
rapidement, je ne sais pas ce que c'est.
C'est dans les orages, en fait, quand vous avez au sommet des mâts des bateaux, vous avez des sortes de petits éclairs qui partent du sommet du bas, qui font des petites aigrettes. Lumineuse et puis ça grésille. Et puis pareil, quand il y a de l'orage et que vous êtes en montagne, on sent aussi tous ces petits bourdonnements.
Donc risquez de recevoir ces petits éclairs avant même d'avoir touché le fil. D'où l'intérêt de la combinaison.
Ok, alors moi, tout ce que vous me racontez, c'est passionnant, mais ça m'a donné soif. J'ai envie d'une petite bière, mais pourquoi il y a plus de mousse dans certaines bières que dans d'autres ? Réponse tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
On la reconnaît à sa jolie robe, avec ou sans faux col. Elle est blanche, elle est blonde, un peu rousse ou franchement brune. Elle n'a pas son pareil pour faire tourner la tête des hommes.
RTL.
Cette élégante, c'est la bière.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous donne la main, on boit une bière ensemble et on joue au savant dans la curiosité. Depuis tout à l'heure, on a appris à faire des frites moins grasses. On a compris pourquoi les oiseaux pouvaient se poser sur des lignes à haute tension sans griller. Et maintenant, on va apprendre à faire de la mousse de bière avec nos très sérieux invités, les physiciens Edouard Kierlik et Jean-Michel Courtier. Alors, on est quelques-uns à écouter, là, aimer se verser une bonne bière. Et on se pose la question, certaines bières sont mousseuses, d'autres un peu moins. Comment s'explique cet effet mousse ?
Alors, on va pouvoir distinguer deux grands types de bières. Il y a pratiquement, dans la première catégorie, on met toutes les bières. Elles sont au gaz carbonique, en fait. Et c'est très, très facile de faire de la mousse. Donc, la Heineken, la 1664, vous la versez, vous n'avez aucun effort à faire. Vous avez tout de suite une mousse blanche très abondante.
C'est-à-dire que c'est ce gaz carbonique qui crée la mousse, c'est ça ?
Oui, parce qu'en fait, ces bières sont préparées sous une atmosphère de gaz carbonique, à deux barres de gaz carbonique. Mmh. Le gaz carbonique se dissout dans la bière, et quand vous la versez, vous brassez la bière avec l'air atmosphérique, ça va créer des petites bulles. Ces petites bulles vont remonter dans votre bière et elles vont se charger en gaz carbonique.
D'accord, donc ça marche que ce soit une pression ou que ce soit en bouteille. En revanche, avec la bière brune, la Guinness, moi j'ai des souvenirs de voyages en Irlande, on ne buvait que ça, et en pression, on réussissait à avoir de la mousse, ils savaient la servir, mais quand on l'achetait en bouteille, il n'y avait quasiment pas de pression. Comment ça s'explique, ça ?
Alors, le problème, c'est que pour la Guinness, elle est préparée à l'azote.
Ah, donc, c'est pas le même
gaz. Autre gaz. D'accord. Un gaz qui se dissout beaucoup, beaucoup plus difficilement que le gaz carbonique. Donc, première conséquence, déjà, il y en a moins dans la boisson, par rapport à une boisson au gaz carbonique. Donc, il y a moins d'azote dissous dans la boisson. Et ensuite, il faut pouvoir le libérer. Et ça, finalement, c'est assez difficile. Vous signalez l'histoire des canettes de bière.
Oui.
Quand même, Guinness a travaillé dessus et il a pu trouver une solution pour faire apparaître de la mousse alors que C'est comment beaucoup, elle fait plus délicat.
Mais mon voyage, c'est quoi, c'était il y a longtemps, j'avais 20 ans.
On va réactualiser l'info.
Voilà, donc
alors.
Aujourd'hui, ils réussissent.
Ben, en fait, il faut réussir à imiter ce qui se passe chez le barman quand il fait une pression. Ouais. Et en fait, quand le barman fait une pression, ce qu'il fait, c'est que dans le bec qui verse le robinet, il y a plein de petits trous qui injectent du gaz, de l'azote, mm-hmm. de gaz à l'intérieur. Donc en fait, les bulles, elles viennent pas de la bière elle-même, c'est vraiment quelque chose qui est rajouté dedans. Eh bien, les techniciens de chez Guinness ont fabriqué ce qu'ils appellent un gimmick. C'est, si vous prenez une canette de Guinness et que vous la secouez, vous allez entendre ding-ding. En oui. fait, c'est une petite boule en plastique avec un trou extrêmement fin. Et ce qui se passe, c'est que quand on met la Guinness en canette, hein, on va mettre de l'azote liquide et puis on va refermer la canette. Cet azote liquide, il va s'évaporer, ça va faire monter la pression dans la canette et ça va faire rentrer du gaz et du liquide dans la petite boule. Mmh. Et quand on ouvre la canette, eh bien, en sortant de l'orifice, ce gaz va faire toutes ces petites bulles qu'on voit dans la bière.
En revanche, on la secoue pas, comme vous dites, et on n'ouvre pas d'un coup quand même, parce que là, ça nous explose
pas
au visage.
Pas pour les voisins.
On n'a absolument pas besoin de faire d'efforts, c'est le gimmick qui se charge de tout, et c'est la canette, enfin la bière, qu'on appelle la droite.
Très bien.
Notre réalisateur nous a servi 18 bières. Ouais, il faut s'arrêter.
Complètement beurré.
Ça consommait avec modération quand voilà. même.
En tout cas, la gimmick.
Merci André.
La gimmick, moi, j'avais pas ça à la fin des années 80 quand je suis allé en Irlande, je peux vous le dire. En revanche, je me souviens, Sidonie, on avait reçu pour une émission sur le champagne, un amoureux du champagne qui parlait aussi un peu de science et qui nous avait expliqué que les verres, le contenant, avaient une importance pour les bulles. Est-ce que c'est la même chose pour la bière? Est-ce que la forme du verre va avoir un impact sur la quantité de mousse?
Alors, faites travaillez votre mémoire et vous vous souviendrez que lorsque l'on verse de la Guinness dans un verre évasé, mmh. eh bien les bulles descendent. C'est absolument incroyable quand on y fait attention. Ouais. Les bulles descendent au lieu de remonter.
Bah, la mousse se retrouve en bas du verre alors ? C'est quoi l'idée ? Parce que j'ai jamais bu de Guinness moi. Donc
en fait, non, ça ne s'accumule pas en bas, d'accord. mais elle descend sur les parois et elle remonte par l'intérieur.
Alors, on a tous en tête, on parlait des oiseaux sur leur fil électrique, mais il y a autre chose pour les animaux, c'est le chat. Le chat qui, soi-disant, retombe toujours sur ses pattes. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Et si oui, pourquoi ?
Alors c'est vrai, si vous le lâchez de trop bas, il n'a pas le temps de se redresser. Oui. Et il faut faire attention aussi, parce que s'il tombe de haut, de trop haut, il va se remettre dans le bon sens, mais par contre, ça va lui casser les pattes.
Bah oui.
Donc, ne jouez pas à ça chez vous, c'est une expérience.
Il ne faut pas jouer avec. Donc en revanche, c'est effectivement, il retombe sur ses pattes, et c'est là aussi un casse-tête pour les physiciens, parce que là, on est sur des chaises tournantes dans le studio, oui. et si on veut tourner sur sa chaise, la seule solution qu'on a, c'est de s'appuyer sur le sol, ou de s'appuyer sur la table. En revanche, si vous prenez pas d'appui, oui. eh ben vous pouvez pas tourner sur vous-même. Mmh. En tout cas, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est ce que fait le chat.
Et d'ailleurs, quand on regarde un plongeur lorsqu'il est sur son tremplin, oui. on s'aperçoit qu'il met son corps en rotation avant de plonger. Donc, il est déjà en rotation lorsqu'il fait son plongeon, et ensuite, en jouant avec,
il enchaîne les rotations.
Oui, et surtout, il peut s'allonger au bon moment pour rentrer tout droit.
Et le chat, il n'a pas le corps pour faire ça, c'est
alors,
ça il
Alors
ne,
en fait, ce que va faire le chat, c'est qu'il va se tordre. Donc, imaginez, là, je suis assis sur mon siège, hein, et puis je vais commencer à écarter les bras, et je vais tourner le torse vers la droite. Ouais. Alors à ce moment-là...
Sans éborgner personne.
Alors sans éborgner.
Sympa, hein.
À ce moment-là, je vais avoir le bassin qui va tourner vers la gauche. Et comme j'ai les bras tendus, le torse, il va pas beaucoup tourner, le bassin va beaucoup tourner. Ensuite, je replie les bras, oui. j'écarte les jambes et je vais me remettre dans le bon sens. Alors là, à ce moment-là, comme j'ai écarté les jambes, le bassin, il va rester où il est. Et le torse, comme j'ai remis les bras près du corps, et ben il va rejoindre le bassin.
Ça, c'était si vous étiez un chat, on est d'accord.
Si j'étais un chat.
C'est ce que fait le chat.
Et donc, c'est ce que fait le chat.
Il tourne morceau par morceau.
Il tourne morceau par morceau.
Et en plus, il se plie. Il profite, hein, quand on regarde des vidéos très très lentes, on s'aperçoit qu'il fait une espèce de V. Hein, il tord énormément aussi sa colonne vertébrale, hein, pour pouvoir accomplir cette rotation complète. Sans cette torsion de la colonne, il n'y arriverait pas.
Comme si son corps était en deux morceaux, quoi, pratiquement.
Presque, effectivement. Idéalement, en se pliant totalement, on comprendrait, ce serait beaucoup plus aisé pour lui d'effectuer une rotation complète sans appui. C'est bien le miracle du chat.
Mmh. Eh bien, écoutez, grâce à vous, on a eu toutes les réponses à nos questions de science. C'était génial.
Et dans votre livre En avant la physique, 42 phénomènes du quotidien déchiffrés, vous avez bien compris, il nous en reste 38 ou même 36 à découvrir, ce qui fait pas mal.
On va peut-être vous réinviter du coup.
D'infos, avec plaisir. C'est aux éditions Belin. Merci infiniment, Edouard Akirlik et Jean-Michel Courty. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.